tous. Quand je disais que j'avais à cœur qu'on chante la bonté de Dieu après mon message, c'est que j'espère que Dieu va pouvoir m'aider à... la prédication, c'est supposé d'amener à l'adoration, de vous emmener à adorer Dieu encore plus, à l'aimer encore plus, puis à trouver encore plus combien qui est bon. Ça, c'est mon cœur ce matin. Une belle journée, journée de baptême. Je dis toujours que c'est le plus bel événement de l'Église de l'année. Quand il y en a deux, c'est encore mieux, des baptêmes. Hein, parce qu'on sait que ça a commencé même avant que Jésus soit mort et ressuscité par Jean-Baptiste, qui a commencé à baptiser des gens pour que les gens se détournent de leur voie à eux et se tournent vers les voies de Jésus. Et c'était voulu, Dieu voulait ça. Et ensuite, ben, Jésus est venu accomplir ce qu'on avait besoin pour pouvoir suivre les voies de Jésus. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas, et le peuple juif n'a jamais pu par lui-même. Même les gens qui se faisaient baptiser par Jean-Baptiste, il y avait ce désir-là de changer, d'être transformé, mais ils n'y arrivaient pas par eux-mêmes. Parce que ça nous prend plus que nous-mêmes. Ça nous prend Dieu pour pouvoir être transformé. Mais Jésus accomplit ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, bien, une journée de baptême, c'est ce qui se passe depuis 2000 ans dans l'Église, où Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés et les fait découvrir tout le royaume des cieux. C'est l'entrée dans la famille de Dieu. Ce n'est pas le salut. Le salut, ça vient quand on a une conviction de péché et une conviction d'un besoin de Jésus dans notre vie. Et en acceptant Jésus, c'est là qu'on est sauvé, lorsqu'on est régénéré, lorsqu'on est de nouveau par l'Esprit. Mais le baptême, c'est la confirmation qu'on veut aller plus loin, qu'on veut vraiment rentrer. On va en parler un petit peu tout le long. J'avais à cœur vraiment d'avoir ce focus-là, mais comme vous allez voir, c'est un message pour tout le monde, pas juste pour ceux qui sont baptisés, parce qu'on a besoin de se souvenir qui on est et ce que Dieu s'attend de nous autres. Amen. Dans notre thème de l'année, créé à son image, on vient de sortir de différentes séries. Cet été, on a laissé ça un peu plus libre. Cet automne, on avait à cœur d'avoir une nouvelle série qui s'intitule « Le divin en nous ». Parce que créé à son image, tous les hommes de la terre, en fait, et les femmes, sont créés à l'image de Dieu. Mais ce qu'on a de particulier lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, c'est que le divin vient vivre en nous. Et on avait à cœur d'avoir une série qui parle du divin en nous. C'est quoi la différence que ça fait? Donc, c'est notre série cet automne. Et Michael a commencé la semaine passée à en parler quand il a parlé « citoyen du ciel ». Lorsque Dieu vient en nous, on devient citoyen du ciel. En plus d'être citoyen de la terre, mais on devient comme des missionnaires sur la terre et des citoyens du ciel. Mon message que j'ai aujourd'hui, en fait, il est inspiré de trois choses. Dieu l'a modifié un peu ce matin parce que je n'étais pas tout à fait aligné avec, je pense, ce qu'il voulait nous dire ce matin. Alors, il m'a parlé et je vous parle de ce qu'il m'a parlé. Mais il y avait trois choses déjà qui trottaient dans ma tête. C'était premièrement Joseph, le mari de Marie. Ma femme, on jasait avec ma femme, puis elle m'a dit, « Hey, c'est une femme qui a dit ça, là. Hein? » Elle dit, « Dieu a plus souvent parlé à Joseph dans la Bible qu'à Marie. » C'est comment ça? Ben oui, Marie, l'ange Gabriel y est apparu, mais après ça, toutes les interventions de Dieu dans ce couple-là, c'est toujours par l'intermédiaire de Joseph. Et c'est quatre fois, en fait, que Joseph a eu des songes durant l'histoire de Noël, finalement. Alors, j'ai trouvé ça intéressant que ma femme me dise ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas parlé à Marie en d'autres temps, mais en tout cas, la Bible, elle rapporte que quatre fois, Dieu est intervenu dans l'histoire de Marie et Joseph, et Jésus, bien entendu, en parlant à Joseph. Alors, je vais beaucoup me baser là-dessus. On va parler beaucoup de Joseph ce matin. Une autre chose qui m'a influencé pour mon message ce matin, c'est une lecture d'un livre que je suis en train de faire d'un des personnes des personnes qui est venue prêcher à notre église dans notre série Différents mais humains, où on voulait inviter des gens de toutes les familles d'église. Et il m'avait donné un livre, Les Anabaptistes. Et j'ai trouvé ça très intéressant à lire ça. Vous savez, les Anabaptistes, c'est le début de notre histoire, l'Église évangélique. En fait, le début de l'histoire, c'est avec Jésus, mais après ça, il y a eu une religion qui a été fondée un petit peu, qui marchait un peu avec les politiciens du temps. Et il y a à peu près 500 ans, il y a eu une réforme. On s'est aperçu qu'on était sauvés par la foi. Et suite à cette réforme-là, des protestants, finalement, est arrivé les anabaptistes qui, eux, avaient une idée un peu différente de Luther et Calvin, qui sont les premiers réformés, les premiers protestants. Eux sont arrivés avec une vision différente des choses. Puis c'est un livre qui vraiment me parle énormément parce que c'est vraiment beaucoup ce qu'on croit. Toute l'Église évangélique, peu importe la dénomination, ce que les anabaptistes ont. C'est sûr qu'on possède ce que Luther a découvert, qu'on était sauvés par la foi, que ça ne venait pas de nous autres, ça ne venait pas des œuvres, mais c'était un cadeau gratuit de Dieu. Mais les anabaptistes sont allés plus loin que ça. Et c'est très intéressant comme livre. Et ça m'a influencé pour le message que j'ai ce matin. Et le chapitre qui m'a influencé dans ce livre-là ce matin que je vais vous apporter, c'est... Vous savez, on se dit souvent que Jésus est sauveur et Seigneur. Mais eux, ils disent, ce n'est pas dans le bon ordre. Pour eux, ce qui est important de dire, c'est que Jésus est Seigneur et Sauveur. Pour les anabaptistes, Jésus est plus Seigneur que Sauveur. Ça fait drôle d'entendre, de lire ça. Mais eux, ce qu'ils ont réalisé, c'est que si tu es sauvé, mais que tu ne suis pas vraiment Jésus, ben, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé, mais tu ne vas pas loin avec ta foi. Et pour eux, d'avoir Jésus comme Seigneur de ta vie, c'est quelque chose qui est primordial dans la vie du chrétien. On va développer un peu là-dessus. Et bien entendu, la troisième chose qui m'a influencé, c'est les événements qui se passent dans le monde. On sait que ça ne va pas nécessairement bien dans le monde. Il y a des désastres un peu partout sur la planète. C'est sûr qu'on vient de vivre ces quelques années de pandémie avec tous les dommages collatéraux que ça a pu causer. Il y a cette guerre-là qui a commencé en Ukraine tout de suite après. Il y a aussi de la tension comme jamais dans le monde entre toutes les puissances du monde. Il y a les menaces de guerre nucléaire, en passant, qui n'arrivera pas à moins que Dieu le permette, parce que Dieu est le maître. Hein? Il y a un passage qui me touche beaucoup dans la Bible. Et ça dit, si Dieu n'était pas intervenu, tout aurait été détruit. Fait qu'on sait que Dieu peut toujours intervenir et que s'il n'intervient pas, c'est parce qu'il y a un plan en arrière de ça. Alors, on n'a pas à craindre, on sait que Dieu est en contrôle. On entend parler de toutes ces tueries un peu partout dans le monde, des bombes, de la guerre, la mafia, la guerre avec la mafia, des tragédies raciales, surtout, on en entend parler beaucoup au Canada avec nos Autochtones, les tragédies envers les femmes, les féminicides, et toutes les viols et tout ça, les tragédies avec les enfants, les abus, tout ça. En tout cas, on ne peut pas dire que ça va bien dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Ça m'a parlé, ça aussi, pour mon message de ce matin. Et on va essayer de voir la foi, le divin en nous, qu'est-ce que ça fait au milieu de l'adversité. C'est pour ça que j'ai appelé mon message ce matin « Maître et Seigneur » au milieu de l'adversité, où on pourrait dire « Maître et Seigneur en tout temps ». Alors, on va parler de notre Seigneur Jésus et de notre Sauveur Jésus. Amen. Vous savez que l'adversité soit mondiale ou qu'elle soit personnelle, parce qu'on vit plein de choses, on vit des maladies, on vit des problèmes relationnels, on vit des choses dans notre famille qui arrivent et qui nous affectent, qui nous attristent. Alors, on est tous touchés personnellement par des tragédies aussi. Et bien entendu, quand on vit ça, les tragédies qui se passent dans le monde deviennent moins importantes parce qu'on a de la souffrance personnelle et la vie n'est pas facile, que ce soit personnellement ou dans le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, au milieu de toutes ces formes d'adversité-là, change tout. Et c'est ça que j'ai à cœur d'explorer, surtout en cette journée de baptême. Où est-ce qu'on trouve les réponses? Dans la Bible. C'est là que sont toutes les réponses. Hein? Révélées par l'Esprit. Donc, la Bible révélée par l'Esprit. Donc, je reviens à Joseph. Notre Joseph, fiancé à Marie. Marie tombe enceinte. Et bien entendu, quand ta blonde ou ta fiancée, que tu n'as jamais couché avec parce que tu as voulu respecter les lois de Dieu et tu as voulu être correct, elle tombe enceinte, ça ne va pas nécessairement bien dans ton cœur, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire que Joseph était en paix dans cette première apparition de Joseph dans la Bible. Hein? Ça n'allait pas bien dans sa vie. On va lire le passage. Ça dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » Facile pour Marie? En fait, pas facile parce que c'est un bouleversement de vie. Mais pour Joseph, qui ne savait pas ce qui se passait, ça n'allait pas bien. Je pense qu'on peut extrapoler de ce que Joseph vivait à ce moment-là, plein de choses que nous, on a pu vivre ou qu'on vit en ce moment, puis qui est probablement moins pire que ce que Joseph vivait dans sa tête à ce moment-là. Mais heureusement, Joseph était croyant. Et parce qu'il était croyant, il faisait tous les bons choix, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Donc, on peut se consoler quand on ne fait pas les bons choix en regardant Joseph. Hein? Ça dit, Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc, Joseph était un bon homme. Et il aurait pu décider de faire lapider Marie, mais il était bon, il était croyant, et il y avait de la compassion, il y avait de l'amour, et il était sûrement déçu, sûrement blessé, mais il n'a pas voulu qu'on lapide Marie. Il a préféré, en secret, la laisser aller. Ça, c'était sa réaction humaine. Ça, c'est typique de nos réactions. Hein? Quand on vit de l'adversité, une situation survit, on est anxieux, on est déstabilisé, on est pris en notre conscience, entre notre conscience, nos plans, nos déceptions, nos frustrations, notre colère, notre agitation, notre recherche de solutions, et on trouve une solution humaine. Donc, Joseph avait trouvé une solution humaine, qu'on pourrait dire louable dans la circonstance, mais complètement à côté de la traque du plan de Dieu. Okay? Dieu ne voulait pas juste une mère pour Jésus qui était pour naître, il voulait un père aussi. Et il a choisi Joseph. Il a choisi Marie, mais il a aussi choisi Joseph. Et on va voir pourquoi il a choisi Joseph en explorant un peu l'attitude et la vie de Joseph. Donc, Joseph agissait selon la loi, selon sa conscience, sa propre réflexion, peut-être selon l'avis de certains amis qu'il conseillait, certains conseillers, mais pas selon la voie de Dieu. Donc, sa façon de faire aurait pu complètement bousiller le plan de Dieu, non seulement pour lui, mais pour l'humanité entière. C'est assez fort, hein? Puis en plus, il n'aurait jamais été en paix tout le reste de sa vie. Il aurait été toujours bouleversé par cette histoire-là qui s'est passée. Mais Dieu est intervenu, heureusement, et on lit dans la suite, « Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Vraiment pas la même idée que Joseph avait dans sa tête lorsqu'il a vécu l'adversité. On vit souvent l'adversité sans connaître tout ce qu'il y a en arrière de l'adversité. Et pas juste ce qu'il y a en arrière du niveau humain, mais ce qu'il y a en arrière au niveau spirituel aussi. On sait qu'il y a des instances spirituelles qui sont nos ennemis et qui constamment veulent mettre des bâtons dans nos roues, nous mettre des bâtons dans les roues, hein? Constamment. Et on ne sait pas tous les enjeux de ce qu'on vit. On ne connaît pas. Joseph ne connaissait pas ça. Mais Dieu lui a parlé. Et lui explique que ton focus, Joseph, n'est pas à la bonne place. Tu focuses en ce moment sur les circonstances. Tu focuses aussi sur ce que ça va te faire à toi, hein, sur la peine que tu as, sur tes frustrations. Mais moi, je veux changer ton focus. Je voudrais que tu focuses sur mon plan, sur ce que j'ai prévu pour ta vie et ce que j'ai prévu aussi pour l'humanité. Et c'est souvent une version de focus qui nous fait mal réagir et choisir mal dans nos vies lorsqu'on vit l'adversité. En fait, on a rarement le focus à la bonne place dans l'adversité. On est plus dirigé par nos émotions, par notre raisonnement lié à nos émotions, et encore moins par Dieu que quand tout est calme et quand on est en paix. Mais la clé pour comprendre pourquoi Dieu devrait être le Seigneur de notre vie, il vient par la suite. Ça dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. » Dieu avait prévu longtemps d'avance que ça ne se passerait pas comme Joseph avait prévu. Et Dieu l'a révélé à Joseph. Joseph l'a entendu et Joseph a obéi, comme on va voir. Dieu a un plan pour le monde, mais il y a aussi un plan pour ta vie personnelle. Et le seul qui peut t'emmener là où Dieu te veut, c'est lui. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas y penser où est-ce qu'il veut t'emmener. Et sûrement pas tes conseillers et ton background de vie. Hein? Il y a juste lui qui peut nous emmener là où il veut nous emmener. Et où est-ce qu'il veut nous emmener, c'est bon. Ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas toujours facile de passer par le passage pour se rendre là où il veut nous emmener. Et où est-ce qu'il veut nous emmener, c'est bon. Et est-ce qu'il veut faire par nous, c'est bon aussi. Mais pour ça, pour pouvoir vraiment marcher dans ce que Jésus a pour nous, Jésus doit être le Seigneur de notre vie. Il ne peut pas être juste le sauveur de notre vie. Il faut qu'il soit le Seigneur de notre vie. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, personnellement. Peut-être de l'anxiété, peut-être des situations difficiles. Peut-être des situations difficiles dans votre couple, des situations difficiles avec vos enfants, peut-être des questionnements, peut-être des problèmes financiers, peut-être de la maladie, peut-être de la pression au travail. Même si Dieu n'a pas annoncé par les prophètes, comme dans ce cas ici, ce qui était pour vous arriver dans la Bible, Dieu a autant un plan pour vous qu'il y en avait un pour Joseph et Marie. Mais la seule façon de rentrer dans son plan et de marcher dans son plan, c'est qu'il soit le Seigneur de notre vie et que lui nous dise où aller, nous dise quoi faire, nous révèle quel choix prendre dans notre vie de tous les jours. Il y a un plan de bonheur et de paix pour chacun de nous autres. Il veut l'accomplir. En nous, pour nous et pour les autres. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand Jésus est maître et Seigneur de notre vie, ce n'est pas juste à nous que ça bénéficie. Ça bénéficie à ceux qui nous entourent. Les anabaptistes voyaient que les catholiques étaient sauvés par toutes sortes de rituels. On appelait les sacrements. Le baptême des bébés, la confirmation, la première communion, la communion à tous les dimanches, la messe à tous les dimanches, la confesse et à la fin l'extrême onction. Il fallait qu'ils accomplissent ces sacrements-là pour pouvoir aller au ciel. Après ça, ils se sont aperçus que les premiers protestants avaient découvert ce trésor que je chéris de tout mon cœur, qu'on est sauvé par la foi, que ça ne dépend pas de nous autres. Quel fardeau qui tombe. Mais il s'est aperçu aussi que le plan de vie que Dieu a pour nous peut juste se réaliser si Jésus est Seigneur de notre vie. Qu'il soit notre Sauveur, ce n'est pas assez. Nos baptisés aujourd'hui, c'est des gens qui sont déjà sauvés. Ils ont déjà été touchés par le Saint-Esprit. Ils ont déjà accepté Jésus dans leur cœur. Mais l'engagement qu'ils font aujourd'hui, c'est que Jésus devienne le Seigneur de leur vie. Ils s'engagent à suivre Jésus pour le reste de leur jour. Et ça, on l'a tout fait, ceux qui sont baptisés. Et ceux qui n'ont pas connu Jésus, je vous dis, dites à Jésus de venir dans votre vie. Vous allez trouver ça capotant, comment que ça change tout. C'est vraiment bon. On s'est tous engagés par le baptême un jour. Mais beaucoup d'entre nous, Jésus n'a pas été le Seigneur, moi inclus, n'a pas été notre Seigneur à tous les jours de notre vie. On a pris des détours. On est redevenu Seigneur de notre vie parfois. Ou des choses qu'on a lues, des choses qu'on a écoutées, des choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux sont devenues des seigneurs de notre vie. Jésus veut qu'il soit le seul Seigneur de notre vie. Il ne veut pas partager sa gloire avec personne. Il ne veut pas qu'on ait d'autres dieux devant lui que lui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a juste lui qui peut nous emmener vers la destinée glorieuse qu'il nous a préparée. Mais pour ça, il faut qu'il soit Seigneur de notre vie. Dans la lettre aux Philippiens que Paul écrit, c'est intéressant ce que ça dit. Chapitre 2, versets 7 à 11, ça dit « Reconnu comme un simple homme en parlant de Jésus, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à sa mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Intéressant comme passage. Deux mots que je veux attirer votre attention ici. Jésus a vécu l'obéissance toute sa vie. Hein? Ce passage-là met l'emphase sur l'obéissance de Jésus. Et ça dit que c'est à cause de son obéissance que Dieu l'a élevé au-dessus de tout, afin que tous sachent que lui seul, celui qui a obéi toute sa vie, lui seul mérite d'être le Seigneur. C'est par son obéissance qu'il est devenu le Seigneur. C'est par notre obéissance qu'on peut suivre Jésus vraiment. C'est par notre obéissance qu'on peut vraiment aller vers la destinée glorieuse que Dieu a pour chacun de nous, cette vie que la Bible qualifie de abondante. Dieu a ça pour nous. Okay? Et sa définition d'abondante, ça ne sera pas nécessairement la vôtre, je vous dis d'avance. Mais ça va être plus beau quand vous allez vraiment rentrer dedans. Amen. Voyons la réaction de Joseph. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Dieu parle à Joseph. Joseph obéit. La Bible ne le dit pas, mais moi je crois que Dieu a choisi Joseph pour être le père adoptif, qu'on pourrait dire, de Jésus à cause de son obéissance. L'ange Gabriel a dit à Marie, « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Marie, elle avait sûrement quelque chose d'extraordinaire, sûrement aussi l'obéissance. Mais Joseph a été choisi comme père de Jésus parce qu'il était obéissant. Parce que Dieu était vraiment son Seigneur. Ce n'était pas juste un Dieu en qui il croyait, il était son Seigneur. Et pour Dieu, c'est un qualificatif, une qualité, je dirais, un prérequis essentiel à pouvoir bâtir le royaume avec lui. Amen. À son réveil, Joseph était en paix. Non pas bouleversé, parce qu'on est tout le temps bouleversé par tout ce que Dieu nous appelle à faire, mais en paix dans son cœur. Même si les événements autour de lui n'avaient pas changé, c'était les mêmes événements d'avant. D'avoir Jésus comme Seigneur, Dieu comme Seigneur, l'aide à faire face à tout ce qui va suivre. Les critiques, hein? On sait que c'est sûrement fait critiquer pour avoir accepté finalement de rester avec Marie, malgré qu'elle était enceinte. Elle n'était pas mariée encore. Okay? Mais la paix que Dieu lui a donnée, parce qu'il savait qu'il était dans les voies de Dieu, ça fait qu'il était capable de vivre toutes les épreuves qui venaient à cause de sa décision de suivre Dieu. Le deuxième songe que Joseph a, on sait quand ça arrive, il est rendu à Bethléem, Jésus est né, et l'adversité, OK, est autour de lui. On apprend que, nous on le sait parce qu'on a lu l'histoire, là. Joseph ne le savait pas, mais Hérode veut tuer Jésus. Pour ceux qui demandent aux mages, revenez me dire où ce qui est. Moi, je vais aller l'adorer, mais son plan, c'était d'aller le tuer. Parce que c'était un roi annoncé et il voulait pas perdre sa position de roi. Il ne voulait pas que personne prenne sa place. Fait que son cœur était d'aller tuer Jésus. Ici, c'est intéressant que Joseph n'est pas au courant, mais parce que Dieu est son Seigneur, Dieu lui dit, « Pars, hein? » Et va-t'en, parce qu'on veut tuer ton fils. Ça dit, lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve, à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Vous savez, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Juste pour avoir pris la décision de suivre Jésus, il y a plein de flèches que l'ennemi veut nous lancer. Okay? Et si Jésus n'est pas Seigneur de notre vie, ben ces flèches-là risquent de nous atteindre. Parce que Jésus ne veut pas que les flèches nous atteignent. Ça dit la Bible, que 1 000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche, les flèches ne t'atteindront pas. Okay? Ça veut-tu dire que la vie va être facile? Non, la vie ne sera jamais facile sur la terre. Mais les plans de l'ennemi pour détruire notre destinée, ça ne marchera pas contre nous autres si Jésus est notre Seigneur, si on marche avec lui. Okay? Il faut faire attention. Il y a des épreuves qu'on vit, ce n'est pas à cause que Jésus n'est pas notre Seigneur. Les épreuves sont là sur la terre, puis on ne peut pas passer à côté. Il faut juste accepter ça. Les épreuves sont là, puis ils vont en avoir toute notre vie. Okay? Donc, ce n'est pas parce qu'on vit une épreuve, une tragédie, quelque chose de difficile, ce n'est pas à cause de ça que Jésus n'est pas notre Seigneur. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, Dieu a une destinée pour nous autres. À travers nos tragédies, à travers les problèmes de cette terre, Dieu a un plan pour nous. L'ennemi veut nous dérouter de ce plan-là. Mais s'il est notre Seigneur, il va nous garder dans ce plan-là. Et malgré toute l'adversité, malgré tout ce qui nous tombe dessus, on va pouvoir continuer comme Joseph et Marie, dans le chemin que Dieu nous a tracé. Joseph se leva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Dieu a parlé à Joseph afin que sa volonté s'accomplisse. Joseph a obéi parce qu'il croyait que la volonté de Dieu pour lui était meilleure que sa propre volonté pour lui-même. On se dirait, tout va bien dans le monde maintenant que Joseph a obéi à Dieu. La réalité, c'est que ça a été pire. À cause que Joseph obéit à Dieu, à cause que Dieu lui a dit de partir, okay, Hérode a décidé de tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Spécial quand on pense à ça. Je vais vous lire un passage qui peut être bouleversant. Ça dit, « Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama. Des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. » Ça peut être dérangeant, ce passage-là. Des centaines d'années avant Jésus, Dieu savait que Hérode irait tuer des centaines d'enfants. Et c'est arrivé quand même. Ça vous dérange-tu? Plus on connaît Dieu, moins ça nous dérange. Parce qu'on sait que Dieu est bon. En fait, tout ce que ça nous dit, c'est que le ciel, ce n'est pas sa terre. Le ciel, c'est au ciel. Sur la terre, il y a des désastres, il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a de la maladie, il y a des horreurs. C'est ça, la terre. Dieu a annoncé que c'était pour arriver. Parce que l'homme est méchant. Et l'homme crée des choses méchantes. Okay. Dieu a un plan. Son plan, c'est nous délivrer. Pas nous délivrer d'Hérode, ni des Romains, comme les disciples de Jésus auraient tellement espéré, auraient tellement voulu. Le plan de Jésus, il a toujours dit c'était quoi son plan? C'est de nous délivrer du péché. Parce que quand même que Dieu nous délivrait d'Hérode, quand même qu'il nous délivrerait des Romains et de toutes les personnes méchantes du monde, quand même qu'il ferait ça, on ne serait pas libre. Comme on a chanté au début, libéré, on ne serait pas libre. On serait encore esclaves du péché. Donc, le plan de Jésus, c'était de nous libérer du péché. Amen. Et de devenir notre Seigneur, afin de nous emmener dans la destinée glorieuse qu'il y a pour nous autres. L'humain vit sur terre des tragédies depuis la chute d'Adam et Ève. Et ça ne va pas changer. Donc, la prochaine fois qu'une pensée nous vient, comme c'est populaire au Québec de dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? » C'est pas à cause de Dieu. C'est parce qu'on vit sa terre. C'est juste ça le problème. Mais Dieu a promis de nous accompagner dans notre route, d'être toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, d'intervenir selon son plan parfait. Ça dit, après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Égypte, et dit, troisième fois qu'il parle à Joseph, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Dieu avait un plan pour Joseph, comme il y a un plan pour chacun de vous. Et même quand que tu peux être assis confortable en Égypte, parce que là, il n'y a plus de crainte qu'il tue ton enfant, bien Dieu, quand c'est le temps de faire un move, il nous demande de faire un move. Même dans notre petit confort. Il dit, à un moment donné, il dit, il faut avancer, il faut aller plus loin. On retourne. Pourtant, il ne retournait pas dans Watt. Là. Les Romains continuaient de contrôler. C'est encore un dictateur qui était là au pouvoir. Mais c'est là que Dieu voulait son enfant. Dieu ne nous envoie pas dans de la Watt. Il nous envoie là où son plan se déroule. Et chacun de nous, lorsqu'on est appelé de Dieu, il ne faut pas s'attendre que Dieu... On aime beaucoup le psaume 23. Il nous amène vers de verts pâturages. On oublie les autres passages par où il faut passer pour arriver là. Des fois, il faut passer par retourner dans des endroits où on a besoin de retourner. Joseph doit retourner en Israël. C'est là que le plan pour Jésus est déjà dessiné. Jésus, notre Seigneur, lui, il ne regarde pas les circonstances, il regarde son plan. Il regarde l'amour qu'il y a pour nous et il regarde la destinée qu'il y a pour chacun de nous. Amen. Et plus on est proche de lui, plus on risque de comprendre ce qu'il veut pour notre vie. Il est sauveur de notre vie, mais s'il est Seigneur, on va être obligé de s'arrêter puis essayer de l'écouter. Dans deux semaines, on a une semaine où ce qu'on veut, appeler l'Église à s'arrêter, prendre du temps, chercher Dieu. On fait ça tous les automnes, une semaine dans sa présence. On va chercher Dieu ensemble La salle va être ouverte ici si les gens veulent prier ensemble. Il y a des gens qui peuvent prier aussi chez eux, mais on veut vraiment prendre une semaine où ce que toute l'Église dit, cette semaine, on cherche encore plus la face de Dieu. On met quelques loisirs de côté puis on cherche sa face. Quand on est proche, on a plus de chances d'entendre Dieu. Amen. Encore une fois, Joseph écouta, se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Quatrième fois que Dieu parle à Joseph, dans Matthieu 2, 22. Cependant, quand il apprit, là c'est Joseph, quand Joseph apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Joseph eut peur. Avez-vous peur des fois? Si vous avez peur, Dieu a une direction pour vous. Okay? Et quelque chose à vous dire. Soit qu'il veut vous réconforter, vous dire, regarde, fais un pas, j'ai quelque chose pour toi. Reste pas là dans ta peur, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Amen. Il l'envoyait-tu dans de la ouate à Nazareth? Non, il retournait dans ce pays-là où ce que Marie a été reconnue comme adultère, où ce que lui a eu un enfant sans être marié, où ce qui avait été sûrement critiqué, et où ce qu'éventuellement ils vont vouloir jeter Jésus en bas d'une falaise. Il ne retournait pas dans la ouate. Hein? Il l'envoyait où? Là où est son plan. Dieu nous envoie toujours là où est son plan. Pas dans de la ouate, mais il nous garde en paix. Hein? Il nous garde en paix, il reste avec nous, il nous réconforte, il est le consolateur. Il y a une histoire qui m'interpelle aussi de Joseph, c'est lorsque Jésus a eu 12 ans. Ça, c'est intéressant. Ça nous aide aussi à comprendre encore pourquoi des fois on ne comprend pas les voies de Dieu et on est agité et on est inquiète et anxieux. Et on se pose des questions, pourquoi? Pourquoi? C'est l'histoire où lorsque Jésus avait 12 ans, vous vous souvenez, il s'en va à Jérusalem et ils vont visiter le temple pour la Pâque et ils retournent et Jésus ne les accompagne pas. Puis les autres, ils se disent, bien, Jésus va suivre, il a 12 ans, il est assez vieux pour suivre et ils s'aperçoivent qu'il n'est pas avec eux. Ils retournent à Jérusalem, puis là, ils se mettent à le chercher partout. Et ça dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi avec nous? Pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Jésus a beau être ton Seigneur, Dieu a beau être ton Seigneur, ça ne nous empêche pas de vivre des moments d'angoisse. Hein? C'est sûr que le focus de Joseph au moment où il était angoissé de Marie n'était pas sur le plan de Dieu. Il était sur la situation. Notre petit 12 ans, il s'est perdu, s'est-tu fait voler, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Donc, ça l'a fait, bien entendu, réagir de façon humaine. Jésus répond, pourquoi t'es stressé, ma? Pourquoi t'es stressé, pa? Je suis dans le plan de mon Père. Souvent, on est stressé et on ne comprend pas c'est quoi le plan de Dieu, n'est-ce pas? Ça vous arrive-tu? Si vous pensez que vous êtes tout seul, c'est intéressant de voir comment se sentaient Joseph et Marie, Saint Joseph et Sainte Marie. Jésus dit, mais ils ne comprirent pas, c'est-à-dire la Bible dit, mais ils ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Hein? Ils ne comprirent pas que Jésus était dans le plan de Dieu. Pourtant, Jésus leur a dit, vous ne savez pas qu'il faut que je fasse les choses de mon Père? Ils ne comprenaient pas. Mais ils ont continué à faire confiance. Ils ont continué à suivre les voies de Dieu. Ils ont continué à faire de Dieu leur Seigneur. Ils ont continué d'obéir au Père. Et finalement, la mission qu'il y avait sur terre s'est accomplie. Et grâce à ça, ben, on est ici, réunis ce matin, le 11 septembre 2022. Pas 2001, heureusement. Non seulement pour glorifier Dieu, non seulement pour savourer notre salut, mais pour faire de Jésus notre Seigneur et d'être témoin de personnes qui vont s'engager aujourd'hui à faire de Jésus leur Seigneur. Amen. Amen. Dans le livre que je lis, ça dit « Jésus devient Seigneur quand nous nous engageons à le suivre dans notre vie quotidienne. » Jésus ne devient pas Seigneur quand on dit « Seigneur, je te reçois comme le Seigneur de ma vie. » Il devient Seigneur la journée ou chaque jour qu'on décide de le suivre dans notre vie quotidienne. On est humain. Chacun de nous autres, on a des journées où ce que Jésus n'est pas le Seigneur de notre vie. Jésus veut nous rappeler ce matin. Je veux être le Seigneur de votre vie parce que je suis bon. Je vais inviter le groupe de louanges. Je voulais vraiment qu'on chante ce chant-là. Je veux être le Seigneur de votre vie parce que je suis bon, parce que j'ai des plans de paix et de bonheur pour vous, que vous ne comprenez pas toujours. Parfois, il faut passer par des moments difficiles, des situations difficiles, des contextes difficiles. Il faut vivre sur la terre où tout va mal. Pour ça, il faut ça. Mais, j'ai des plans pour vous. Je veux diriger ta vie. Je veux amener ta vie jour après jour dans ta destinée. Et ta destinée, je l'ai dessinée et elle est bonne pour toi. Ta situation actuelle aujourd'hui, tu la comprends peut-être pas. Mais tu es en route. Comme Joseph, il a fallu qu'il aille répondre au recensement alors que sa femme était prête à accoucher. Il fait cette longue route-là avec elle. Comme Joseph, qui a vécu l'adversité, qui a vécu des frustrations, qui a vécu des moments où il s'est demandé où est-ce qu'il est Dieu dans tout ça. J'ai des plans pour toi. Je veux te parler comme j'ai parlé à Joseph. Je veux te donner la direction. Je veux le faire des fois quand tu ne comprends plus rien et que tout va mal. Je veux le faire aussi des fois quand tu es confortable. Je veux pas que tu restes là confortable puis mourir de confortabilité. J'ai quelque chose de plus grand pour toi. Je veux le faire quand que tout semble mal aller. Je veux le faire quand que ça va bien et que tu as besoin de faire des pas, à droite ou à gauche. Je t'aime. Crois en ma bonté, dit le Seigneur. Et si tu fais de moi vraiment, à chaque jour de ta vie, le Seigneur de ta vie, l'adversité va être là quand même. Mais je vais t'emmener par la main. Tu vas être en paix parce que tu vas savoir que je suis avec toi. Tu n'auras pas peur des choses qui semblent épeurantes parce que je te tiens par la main. Et crois-moi, sois-en certain, là où je t'amène, c'est bon. C'est là que la vie abondante que je t'ai promis existe. Et c'est là qu'est ta destinée glorieuse. La destinée qui non seulement va être bonne pour toi, il va faire que tu vas avoir une vie rassasiée, mais en même temps, cette destinée qui va toucher, sans même que tu t'en rendes compte, des dizaines, des centaines et des milliers de personnes autour de toi et par toi. Fais de moi, renouvelle ce vœu. Fais de moi le Seigneur de ta vie. Amen.